Madame Camille Gaïc, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes directrice de Rivarol et vous venez participer au clan de la presse en compagnie de Jean Madiran, directeur de Présent. Bonsoir Jean.
Bonsoir Serge.
De Jean-Claude Varane, directeur de National Hebdo. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir.
Manuel Ratier, directeur d'information. J'y arriverai jamais, alors c'est même pas la peine.
Fais et Docu.
Pourquoi je veux absolument. Je lis avec délectation tous les 15 jours.
Parce que c'est un journal de formation.
Ah voilà, c'est ça. C'est vrai en plus. Bonsoir, Emmanuel. Vous voulez pas dire bonsoir, vous êtes fâché, vous boudez. Il a toujours un air boudeur. Et Yves-Marie Adeline. Ah, je sais pourquoi il boude, c'est parce qu'il n'a pas de micro.
Il a un demi-micro.
Il est obligé de partager le micro avec Adeline et Varane. Et tout
non, Varane, j'en ai un pour lui tout seul.
Bien, madame, messieurs, comme d'habitude, nous allons évoquer l'actualité la plus brûlante. Alors, je vais vous demander ce qui, pour vous, paraît est du domaine de l'actualité importante. Je voudrais quand même vous apporter une information qui, moi, me paraît importante encore, qu'elle peut paraître parfaitement subalterne. C'est qu'il y a eu un sommet à Nice, dirigé par Corona Ier, roi des Maboules. Et toutes les fleurs du sommet ont été importées d'Israël. Vous saviez ça?
Oui, nous l'annonçons dans le journal.
Voilà. Et donc, à Nice, quand on a besoin de fleurs, on les fait venir d'Israël. Je vous signale.
Mais monsieur, comment dites-vous, le roi...
Corona Ier, roi des Maboules.
Voilà. A promis que désormais les fleurs pour l'Élysée seraient commandées en France. Alors donc, ce qui veut dire que jusqu'à présent, elles ne l'étaient point.
Bon. Est-ce que c'est pas une forme d'antisémitisme, ça? Ou d'exclusion? Parce qu'après tout, il y a des fleurs partout dans le monde. Pourquoi des fleurs françaises? L'autre jour, j'ai entendu que De Chavannes recevait un policier qui représentait le syndicat de la police nationale. Et De Chavannes lui a dit... Syndicat de la police nationale, mais nationale, vous ne trouvez pas que c'est un petit peu quand même gênant de mettre national dans le nom d'un syndicat? C'est fabuleux, non?
Oui, il faut l'interdire.
Oui, il faut interdire le mot.
Et l'éducation
Mais si seulement ça pouvait être l'éducation.
Ils ont beaucoup parlé d'André National à l'éducation, mais ça tombe un peu sec, ministère de l'éducation, ça ressemble au ministère de la propagande. Là,
vraiment. Mais oui, mais pourquoi pas l'appeler comme ça?
Oui.
Ça serait tellement puissant.
À Nice, il y a eu le premier ministre suédois qui a eu une phrase extraordinaire. Nous dirons que le sommet de Nice, ça a été un succès parce que c'est que nous dirons toujours à chaque fois.
C'est ce que
nous disons toujours à chaque fois.
Toujours, oui, ouais, on est tranquille. Il avoue que ce qu'ils disent n'a strictement aucune importance. On s'en était déjà aperçu.
Oui, mais je crois quand même que en ce qui concerne Nice, le grand gagnant, c'est quand même l'Allemagne dans cette affaire. Je crois qu'il faut que nos amis le sachent. C'est eux qui ont obtenu le plus. Et que dans l'avenir, bien, je crois qu'il faudra en tenir compte.
C'est-à-dire que ce n'était pas la peine de se casser le tronc il y a 50 ans, on n'aurait plus les
Oui, mais certes, mais qui dirige actuellement l'Allemagne?
Ah, je ne sais pas. Je sens que j'allais devenir désagréable, donc...
Mais de toute façon, dans la mesure où il y a un principe dans la politique française, c'est qu'il faut faire des sacrifices en vue de l'idéal qu'est l'Europe. Alors c'est très joli de faire des sacrifices en vue, mais on se trouve en face de partenaires qui, eux, défendent leurs intérêts. Et nous, nous allons dans ces réunions en disant d'avance que, nous, ceux qui nous représentent, en disant d'avance qu'effectivement, il va falloir faire des sacrifices et en donner l'exemple. Alors ils sacrifient plus ou moins. En tout cas, le président de la République va comparaître demain.
Devant quel tribunal?
Le tribunal populaire, puisqu'il doit passer à TF1, je crois, si je ne me trompe. Ce qui est curieux, d'ailleurs, je croyais qu'il y avait un service public de la télévision.
Oui, mais justement, comme c'est un service public, ils ne veulent peut-être pas faire passer n'importe qui.
Oui, mais il y a un très bon mot là-dessus, c'est qu'effectivement, il va prendre la parole demain soir, et à la question, on va dire, mais de quoi voulez-vous parler? Et il répond la chose suivante, le président de la République dit, mais je ne sais pas par quelle affaire il faut commencer.
Abondance de nuit. Bien nuit.
Alors, donc, le sommet, on a fini ou quelqu'un veut dire des...
Sur le sommet, on pourrait dire quelque chose de l'opposition à ce sommet, sur le contre-sommet de Nice. Il y a quelque chose qui devient vraiment agaçant. C'est de voir que des mouvements de droite, voire des mouvements royalistes, ne se lassent pas de servir de tirailleurs sénégalais de l'extrême gauche, puisqu'on a vu des gens très bien, enfin qui sont bourrés de bonnes intentions, partir à Nice, mettre leur drapeau bien sûr dans leur poche, suivre des cortèges, servir de troupes d'appoint
enfin, il ne faut rien exagérer, ils étaient 12, hein, il y avait les souverainistes, ils étaient un compartiment de. Oui. De wagon-lit.
Bon, mais d'accord, je ne sais pas combien ils étaient, mais c'est quand même choquant de voir des... Bon, ça fait partie de l'impasse du souverainisme et des illusions du souverainisme, c'est vrai, donc il faut combattre
ça. C'est pas une illusion,
bon.
Je crois pas. Enfin, moi, mon opinion sur le souverainisme, c'est que c'est pas du tout une illusion, c'est un attrape-couillon, c'est pas du
oui,
tout...
Oui, enfin, c'est ce que je veux dire. Comme il y a eu l'attrape-couillon de la droite républicaine, maintenant il y a l'attrape-couillon du souverainisme qui remplace, qui fleurit sur les ruines de la droite, donc il va falloir s'occuper à nouveau de cet attrape-couillon-là. Donc c'est vrai que c'est un peu agaçant de voir des gens défendre en principe nos idées, servir de supplétif dans une armée d'extrême gauche conduite par des banderoles, des calicots éternellement peints par la gauche.
En somme, vous voulez nous dire que c'est la droite où l'on arrive toujours à gauche.
C'est la, mais bien sûr, mais la droite où l'on n'arrive jamais. Si je vous renvoie au dessin génial de Miège qui fait que celui qui part à droite arrive à gauche. Donc,
mais il y a un autre aspect dans ces manifestations qui me paraît intéressant, c'est que on connaît les gens de gauche, les gens d'extrême gauche, les Trotsko, les Stalino, enfin toute cette racaille, et on sait bien que c'est des gens qui ont été formés à la gîte propre, ils savent ce qu'ils font. Alors, quand on voit ces gens-là venir manifester contre le mondialisme dans une ville et repartir en laissant derrière eux les cendres fumantes de quelques magasins, de petites gens, de petits épiciers ou de petits commerçants, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Ouais.
C'est pas possible qu'ils ne l'aient pas fait exprès, donc ils l'ont fait à dessein. Alors, si on avait voulu démontrer à la petite bourgeoisie commerçante de France que vraiment les opposants à l'Europe, les opposants au mondialisme sont des canailles qui foutent le feu au petit commerce, on n'aurait pas agi autrement. Quand on sait qui sont les dirigeants de ces mouvements d'extrême gauche, qui sont objectivement des internationalistes, soit trotskistes, soit staliniens, soit tout ce qu'on veut, et qui appartiennent à des communautés politiques bien connues, on voit exactement l'objectif qui est poursuivi. Ce sont des gangs de provocateurs qui sont en train d'essayer de démontrer que tout ce qui est contre l'Europe est constitué de voyous, de crétins et de provocateurs.
Absolument. Voilà. Ouais, ouais.
Et là, à Nice, ça a parfaitement marché, et ça a permis à M. Jospin et à Corona Premier Roi du Maboul de rouler les mécaniques en disant, nous, voyez, on a imposé le respect de la légalité républicaine, on a entendu...
Ça a permis au président Chirard de dire, comment j'apprends que l'on lance des pierres sur la police en France,
ça, en France.
Voilà.
C'est un vrai sens.
On est allé jusque-là. Peut-on tolérer cela? Il a découvert cela.
Et ça a permis au maire de Nice de dire cette chose extraordinaire dans la bouche d'un ancien militant du Front National. La politique ne se fait pas dans la rue. La politique des manifestations, c'est inacceptable, c'est intolérable. La légalité républicaine doit être respectée. Et le pouvoir, c'est dans les institutions, et c'est dans les assemblées, et c'est pas dans la rue. Alors là, vraiment, je sais pas ce qui lui est arrivé. Il a dû prendre un médicament, sa femme de le bourrer au Prozac, ou je sais pas quoi. Alors il y a un problème, là. Il y a quelque chose. Parce que, véritablement, d'entendre, comment il s'appelle déjà son nom l'échappe?
Perra.
C'était l'époque Perra et Malissen. Vous vous rappelez ça? Enfin bref. Donc voilà, mais maintenant il est devenu républicain tendance
Negresco. J'insiste sur cette affaire de vraiment. Enfin, il serait temps. Je dis ça aussi pour mon intérêt personnel parce que jeudi soir, je faisais une conférence auprès d'étudiants. J'attendais des étudiants d'Aix-en-Française. Bon, vous savez que moi je suis d'une origine un petit peu différente, mais je souhaiterais lancer une dynamique unitaire. Et les étudiants d'Aix-en-Française étaient partis là-bas défiler derrière. Les banderoles peintes par la gauche. Donc ça finit par être agaçant.
Tous les deux ?
Oui.
Je sais encore une fois, je ne sais pas combien ils étaient. Mais enfin, ils y étaient. Donc,
Oui, mais enfin, le nom et le mot déjà, le terme déjà de souverainisme, on sait très bien que ça aboutit, on l'a vu au Québec, que ça aboutit sur une impasse. Mais c'est un attrape-couillon.
Bien sûr, naturellement. Mais parce que le souverainisme...
Donc, déjà, le terme est vidé de tout sens.
Ça aboutit sur une impasse parce que le souverainisme veut nier la réalité politique. Le souverainisme permet de ne pas employer le mot nationalisme qui est trop à droite ou indépendantisme qui est trop à gauche, selon nos souvenirs historiques les plus récents. Et par conséquent, on imite les Québécois. Ce qui, à la limite aurait pu passer pour du réalisme au Québec, dans la mesure où il y a une entité quand même française qui est encerclée par des anglo-saxons, ne se reconnaît pas du tout en France, où le phénomène national n'est pas du tout le même. Mais même au Québec, ça a échoué.
Mais au Québec,
puisque le référendum a été un échec à cause du régime politique.
À cause du régime politique, et parce qu'il n'osait pas non plus, parce qu'il y avait l'emprise de la gauche
sur
les souverainistes québécois.
À force de vouloir dire, nous transcendons le clivage droite-gauche.
On a déjà eu un schéma et on suit à nouveau ce schéma dont on sait qu'il est voué à l'échec.
Par exemple... À Nice, quand les souverainistes ont voulu nommer une délégation, c'est compliqué, ils n'étaient pas assez nombreux pour faire une délégation, enfin, ils sont quand même arrivés, parce que c'est difficile de faire une représentation quand on n'est pas très nombreux. Quand on est 10, on peut en déléguer 2, mais quand on est 4, ça devient compliqué.
Mais je sais pas, doutez-vous qu'ils étaient si peu nombreux.
J'ai entendu dire ça.
Bon.
Et ils sont arrivés à coller un gaulliste de gauche quand même dans la délégation. Ce qui est pas mal, faut dire.
C'est ça le sujet. Chez
Gaulliste, déjà, c'est pas mal.
C'est un inventaire à la Prévert, mais qui se fait toujours au bénéfice de la gauche. C'est ça le souverainisme.
À propos de Gaulliste de gauche, vous avez vu les récentes déclarations de Sosten?
Oui, je les ai entendues à la radio ce matin.
Il n'y a pas que le porte-avions qui bat la campagne. Hein. Non, on y reviendra tout à l'heure. Jean Madiran, un commentaire sur Nice?
Rien de plus.
Ça ne vous intéresse pas plus que
ça? Si, ce que nous avons dit là, convient parfaitement.
Emmanuel, on a vu le désordre dans la rue comme le désordre dans les esprits.
Enfin, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Marie-Adeline.
Ah, enfin.
Parce que...
débat.
Mais je ne soutiens pas du tout les souverainistes ou quoi que ce soit. Mais je pense que ce n'est pas parce que la gauche manifeste et qu'elle est majoritaire qu'il faut refuser de manifester et de s'associer avec elle parce qu'on pourrait croire qu'on est leur complice ou leur supplétif. Quand il y a des bonnes idées à gauche... Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas de bonnes idées aussi à droite. On l'a parfaitement vu avec le phénomène révisionniste en France, qui est né à gauche, même à l'ultra-gauche. Ensuite, il y a eu des gens de droite qui s'y sont associés, il y a eu des gens totalement apolitiques, et c'était une excellente chose. Elle était tellement bonne qu'on a créé des lois pour les interdire, comme la loi Guesso. Mais il y a toutes sortes de domaines. C'est pas parce que, par exemple, il y a certains groupes qui sont... C'est pas parce que, par exemple, M. Jean-Pierre Chevènement défend une idée de la République en Corse qu'il faut être indépendantiste, parce que M. Chevènement est de gauche. Donc je suis pas du tout d'accord avec le système disant si la gauche manifeste contre quelque chose, il faut pas que nous, on manifeste contre.
Mais ce n'est pas une bonne idée. Le souverainisme n'est pas une bonne idée.
Mais je parle pas du souverainisme.
Oui, non, enfin, si la gauche avait de bonnes idées, ce serait très bien de s'allier elle, pourquoi pas. Bon, alors, disons, Je répète que le souverainisme est un attrape-couillon politique, donc ce n'est pas une bonne idée. Et encore une fois, je déplore que des mouvements, en particulier des royalistes, qui devraient savoir qu'il n'y a pas de souveraineté possible sans souverain, en particulier s'agissant de la France, je déplore qu'ils se laissent conduire par des joueurs de pipeau qui sont les souverainistes, c'est tout. C'est pas...
Je voudrais répondre un mot à Emmanuel, s'il le permet. C'est que... C'est une trop grande et trop imprécise généralité que de dire quand la gauche a de bonnes idées, on peut y aller avec elle. Parce que nous avons vécu dans tout le XXe siècle, depuis 1917, avec le principe que le communisme progressait en avançant de bonnes idées. Ces idées étaient tellement bonnes que le pape lui-même, qui doit se connaître en matière de bonnes idées catholiques, dans son encyclique sur le communisme, a dit « Ils avancent des idées en tout point conformes à l'idéal catholique ». Vous pouvez le lire dans l'encyclique Divini Redemptoris. Ça ne veut pas dire qu'ils le font tout le temps, ça ne voulait pas dire ça. Mais ça veut dire qu'ils sont très capables, et ils l'ont fait combien de fois, de défendre des idées tout à fait convenables, la dialectique communiste, de défendre des idées tout à fait convenables, pour avoir des compagnons de route, pour avoir des combattants de la paix, pour avoir... Alors naturellement, quand c'est Chirac qui signe l'appel de Stockholm, ou qui en tout cas le diffuse dans l'Humanité dimanche, on peut dire regardez. Mais là, il y a un très réel danger, d'autant que le communisme n'est pas
mort.
Le communisme n'est pas mort du tout, et que le principe même de la dialectique communiste, c'est de diviser les corps sociaux, de les faire éclater, en défendant une idée partielle,
à isoler du reste une idée bonne en soi qui fait que la ligne de démarcation politique ne passera pas entre le Parti communiste et tous les autres, comme ils ont souffert pendant la guerre froide à cause de ça. Il fait qu'ils arrivent à faire passer une ligne de démarcation qui sera entre Emmanuel Ratier et tous les autres.
Communiste, non, mais je ne parle pas du Parti communiste, c'est les idées en général. Oui. Exactement comme, par exemple, l'écologie, même si elle est défendue actuellement par les Verts, ne doit pas rester la propriété des Verts, parce que les idées écologistes sont des idées intéressantes. Ce n'est pas parce que la gauche tente de s'en emparer ou les Verts tentent de s'en emparer qu'il faut leur abandonner.
Oui, mais les plus intéressantes idées écologistes, il faut dire qu'elles sont antérieures aux Verts. Hein.
Oui, et puis là, je parle du souverainisme.
Mais c'est à nous de ne pas leur laisser la place aux Verts. C'est à nous de nous défendre et dire que l'écologie est en soi, est générale et n'appartient pas aux Verts.
Mais comme disait l'autre, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que les communistes ont parfois de bonnes idées. Il ne faut quand même pas oublier que Staline est l'homme au monde qui a tué le plus de communistes. Et ça, il faut lui rendre cette... Personne n'a tué autant de communistes que lui. Donc c'est au moins une raison pour laquelle on doit avoir une certaine considération pour le maréchal Staline.
Enfin, moi, ce qui me gêne davantage dans le sommet de Nice, j'avoue que c'est un peu moins les abdications et les abandons de souveraineté qui, je crois, de toute manière, auraient été consentis par de nombreux gouvernements européens, que tout de même l'ouverture à 13 autres pays dont on ne connaît absolument pas l'avenir.
Oui, mais enfin, en même temps, plus il y aura de pays dans l'Europe, moins elle aura de sens. Ben, donc, au fond, ça a quelque chose.
Oui, mais l'ouverture aux Turcs, par exemple, est une chose pour ne pas donner de sens à leur Europe. N'y mettons pas les Turcs, quand même.
N'y mettons pas les Turcs, et il y a tout de même toute la criminalité à l'Est qui me paraît un danger absolument énorme.
Puis c'est enfin, la criminalité à l'Est, je suis à peu près convaincu que statistiquement, elle n'est pas supérieure à la criminalité à l'Ouest. Mmh. Allez, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'Est?
On nous
bassine avec les mafias russes. Moi, ce que tout le monde peut voir, c'est qu'il n'y a pas plus de mafias russes qu'il y en avait avant. Simplement, avant, la mafia s'appelait KGB, Armée Rouge et administration du Soviet suprême.
C'est ça qui est très inquiétant. C'est que justement... Les mafias sont des organes.
C'est ça, c'est des organes. C'est avant les organes de gouvernement.
Bon,
En France, on est exactement dans la même situation. En France, quand on voit les affaires aujourd'hui, vous avez tous lu Le Monde d'hier, donc Le Monde daté d'aujourd'hui, qui est paru hier, où on a les extraits de témoignages. D'ailleurs, on pourrait s'interroger longuement sur les conditions dans lesquelles le journal Le Monde obtient comme ça des dossiers de justice.
Et d'abord s'interroger pourquoi il déclare éditorialement... Oui. Ce que nous révélons est proprement stupéfiant.
Non, écoutez, je voudrais...
Proprement stupéfiant, d'abord parce qu'il nous avait assuré que la cassette mairie était authentique, donc ne serait-ce qu'avec la cassette mairie, pour s'en tenir aux choses les plus récentes, il n'y a pas de quoi être stupéfié, et en plus, si l'on se souvient... De tout ce que à l'Île-de-France justement le Galou, le Martin Lehideux et Merdinger depuis
92.
Depuis presque une dizaine d'années ont révélé, ils n'ont peut-être pas révélé toute l'ampleur, mais proprement stupéfiant et très fort de la part de l'éditorialiste du Monde, ça c'est pas mais il est vrai que le fait qu'ils aient publié ça par les moyens qui montrent que la présomption d'innocence et le secret de l'instruction ont encore frappé. Parce que dès que quelqu'un évoque la présomption d'innocence, il est soupçonné d'être coupable. Et dès qu'on parle du secret de l'instruction, il n'y a qu'à ouvrir le Monde ou Libération pour trouver les documents, les principaux extraits, les documents certifiés.
En tout cas, ces documents verbatim nous disent quoi? C'est à ça que je voulais en arriver. C'est que on a le RPR, l'UDF, le Parti Socialiste, le Parti Communiste se réunissaient et se disaient... Voilà, enfin, des représentants de ces partis se réunissaient et disaient, voilà, on a dépouillé tel et tel et tel entrepreneur qui nous a versé l'amende aux raquettes, et maintenant on va se partager ce fric.
Mais il y avait même, un consensus de 3 ou 4 entrepreneurs. Ce n'étaient pas les entrepreneurs isolément. Donc, ils ont, vous voulez dire par là, je serai assez de votre avis, mais il faut dire quand même que c'est une exception, que pour cette fois, nous tenons les documents publiés par Le Monde pour crédibles. Car je connais quelqu'un qui est ici, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Monde, et c'est faux.
Il en a amené quelques-uns. Je n'irai pas jusqu'à... me contente de dire que c'est publié dans Le Monde. Je ne peux pas me prononcer sur la véracité de ces affirmations. Si ce qui est écrit dans Le Monde est pour une fois conforme à la vérité...
Ce qui donne à penser, c'est que Le Figaro a immédiatement emboîté le pas ce matin...
Pour dire la même chose.
En disant que c'est le plus grand scandale de la Ve République, le soupçon n'est pas... même pas le président de la République.
Mais ça veut dire que ce sont des méthodes de gangsters qui ont racketté et qui se partagent les fruits du racket.
C'est la
Alors quand on vient nous dire après, vous comprenez, si on fait rentrer les pays de l'Est européen dans l'Europe, on va faire rentrer...
C'est pas la même sorte. C'est une criminalité supplémentaire.
C'est exactement comme la légalisation du haschich. Ce n'est pas une raison parce que les alcools et le tabac sont légalisés, qu'il faut accepter la légalisation de nouvelles drogues.
Bonne comparaison.
Donc,
car c'est une autre criminalité.
Il est inutile d'accepter exactement
d'autres
formes de criminalité.
Surtout que la règle était faite, c'était 2% sur les sommes, et ça représente quand même 600 millions, 600 millions en 5 ans.
Toi qui représentes en quelque sorte un parti, tu le sais ici ce soir, j'ai entendu dire, depuis le début, on nous dit tous les partis en ont...
Non, alors là, c'est justement...
Le Front National en a...
Non, moi j'ai fait partie...
C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, à propos du Monde, justement, rebondir sur Jean, parce que dans son édition... Il est coquinou. Dans son édition de samedi, Le Monde a fait un long article sur l'historique... de l'affaire des lycées, et en citant très longuement Emmerdinger, le Galou et le rôle prédominant du Front National, dont ils ont l'air de dire que personne ne les croyait ou n'en tenait compte à l'époque, mais en tout cas l'article fait 2 colonnes entières et de ce côté-là rend hommage au Front National.
Oui, mais c'est l'hommage qu'ils ont rendu avant le fait nouveau, la stupéfaction. Mais il y aurait lieu d'ailleurs de se pencher à nouveau sur la manière dont les plaintes, notamment d'Emmerdinger, ont fait l'objet de non-lieux scandaleux.
Il n'a jamais pu aller jusqu'au bout, parce que moi j'étais à la mandature de Robert Emmerdinger, et lorsqu'il nous a dit, mais écoutez, il se passe quelque chose, il faut faire quelque chose, et à chaque fois, il tombait dans un cul-de-sac pour intervenir. Moi, j'ai assisté...
Il y a des procédures qui ont été engagées.
Oui,
elle
n'a pas abouti.
Mais justement, elle n'a pas abouti. L'affaire du marché, il y a une affaire de marché où le marché avait été passé par une commission fantôme. C'était entre deux commissions, et avec la date où il n'y en avait plus, et avec une liste de commissions de gens qui n'étaient même plus élus entre deux élections. Non-lieu.
Ah, je propose de donner la parole à la mémoire vivante. Vous avez des commentaires à faire, mon cher Emmanuel, là-dessus ?
Non, mais ce que tous les gens ont dit ici, c'est tout à fait exact. Ce qu'il y a, c'est que le Front National ne cesse de dénoncer les marchés truqués des établissements scolaires de la région parisienne depuis peut-être 10 ans maintenant.
Une dizaine d'années.
Ça a commencé.
Et il y en a certainement d'autres. Dans tous les domaines, il n'y a pas seulement les lycées d'Île-de-France. Le Galou, on peut le dire, a fait un travail extraordinaire sur cette question. Le Front National avait publié même des brochures. Et en fait, les gens qui voulaient savoir savaient. De toute façon, Serge, vous le savez, tous les gens qui sont au conseil régional, les gens qui étaient dans les différentes mairies, les entrepreneurs, tous ces gens-là, ils étaient au courant. Exactement comme l'affaire mairie, tous les gens qui voulaient savoir savaient parfaitement ce que disait mairie. En fait, c'est paru par bribes, un peu dans le Canard enchaîné, un peu dans Libération, un peu dans National Hebdo, un peu dans ces journaux-là. Ce qui est intéressant de se poser la question, moi je ne l'ai pas, c'est pourquoi justement maintenant les plaintes aboutissent, alors que pendant des années elles n'ont pas abouti, mais c'est pas le seul domaine. les appartements, les scandales des appartements de la ville de Paris, par exemple, qui ont fini par aboutir, ça a démarré il y a 3 ou 4 ans avec Montebourg. Ça n'avait jamais réussi à aboutir avant. Pourquoi est-ce que maintenant ça aboutit? Pourquoi est-ce que le Monde récupère des documents quand même assez extraordinaires? Et pourquoi maintenant ça sort? Donc il faut savoir qui les donne. C'est ça la question. Parce que ces choses-là, on les savait. Mais quand ça paraît dans National Hebdo, c'est comme quand ça paraissait dans Minute. C'est un étouffoir, c'est pas sérieux. Quand ça paraît dans Le Monde, c'est complètement différent.
C'est ça.
À qui profitent les révélations? Voilà. Et c'est absolument certain qu'à partir du moment où ça sort, il va y en avoir d'autres.
Oui, mais
ça va être dans tous les domaines.
Sans doute, mais quand on ouvre la boîte de Pandore, comme on aime à dire, bien fort qu'il prétend pouvoir diriger la chose. Le contrôle va être... Si ça a été voulu, et c'est probablement voulu à l'origine par quelqu'un ou par plusieurs, le contrôle va leur échapper.
Il faut voir quand même qu'il y a une bataille, par exemple, terrible pour la mairie de Paris en ce moment.
Oui, mais attendez, je voudrais revenir. Vous avez posé effectivement la bonne question. Tout le monde est au courant, enfin vraiment, pour ne pas savoir ce qui se passait, il ne faut pas lire grand-chose, il ne faut même pas ouvrir, il ne faut pas rentrer dans une librairie, parce qu'il y a un bouquin qui s'appelle Razia sur Paris, qui est paru il y a combien, 4 ou 5 ans maintenant, où tout est raconté, absolument tout.
Peut-être pas, le point qui apparaît peut-être plus nettement, je vous dirais si je me trompe, c'est le degré d'entente.
Voilà. Non, j'y avais
d'entente
pas ça,
entre deux prétendus affaires politiques.
C'est la société de connivence.
Voilà. On l'a déjà eu dans d'autres domaines. Il y a eu notamment l'affaire du CDS qui a fini par s'autodissoudre pour transformer en force démocrate. C'est la fameuse histoire où, quand ils ont été au pouvoir, c'était pendant la cohabitation, si mes souvenirs sont exacts, on a découvert que, parce qu'en fait le trésorier qui est occulte du CDS, qui transférait les sommes en Suisse, en fait qui était un personnage qui devait être payé 15 000 francs par mois, un jour le CDS a décidé de le virer. Il avait gardé des doubles de tout, il allait les fournir à la justice.
Ça
a mis 10 ans à aboutir cette affaire. Bon. Et qu'est-ce qu'on a découvert à ce moment-là? C'est que le CDS encaissait l'argent, avait droit à la partie des supermarchés qui s'implantaient en France. Le RPR avait droit à d'autres domaines, peut-être les routes, construction.
Où il y a une famille qui dit moi je prends les blanchisseries, moi je prends les speakeasy, moi je prends les filles, moi je prends les machines à sous, moi je prends la cam.
Et quand vous interrogez, par exemple P. Bernès, qui était le trésorier
du PS,
il vous dit que
trésorier du présumé PS.
Avant c'était Moati, maintenant on ne sait plus.
Présumé Moati.
Alors il vous dit qu'il connaît très bien Monat. Monat vous dit qu'il connaît Jean-Pierre Thomas, le député, le trésorier.
S'il disait le contraire, on aurait dû le
Non, mais ils se connaissent tous, tout simplement, parce qu'ils se réunissent régulièrement. Ils se réunissent régulièrement pour faire des espèces de contreparties financières, pour faire des équilibres.
Alors, quel est selon vous, et si vous en avez la moindre idée, vous le dites, si vous n'avez pas d'idée, vous ne le dites pas, quel est selon vous l'importance du rôle des loges là-dedans? Parce que tous ces gens-là sont peu ou prou... pas d'information particulière.
Il y a dans Marianne de cette semaine, justement, le retour des sectes et des loges pour prendre énormément d'importance. On aurait l'impression qu'il y a une recrudescence dans ce domaine.
Marie-Camille?
Moi, je me demande s'il n'y a pas une conjuration, une nouvelle connivence de plus jeunes politiciens.
Ça y ressemble, parce que
une nouvelle génération qui jouerait à la génération spontanée, pure et limpide.
Depuis quelques jours, les éditorialistes des radios nous servent ce discours. Est-ce que c'est pas le moment d'en finir avec cette classe politique dont on découvre d'ailleurs par ailleurs que tout soudain elle n'a pas changé depuis une vingtaine d'années, que maintenant c'est la classe politique du baby-boom, c'est des gens qui ont entre 50 et 60 ans, et peut-être qu'il faudrait faire place à des gens de 30 ans.
C'est en consonance avec le discours de Bayrou d'ailleurs.
Tout à fait.
C'est tout à fait le discours de Bayrou.
Et pourquoi il a quel âge Bayrou?
Hein?
Il a quel âge Bayrou? C'est pas un perdreau de l'âge.
Non, mais c'est le discours qu'il tient à l'égard des autres.
C'est ça, oui, mais lui, il n'est pas dans le coup. Quel âge a-t-il, vous, qui savez tout, Emmanuel, ne sait pas?
C'est un quinquin.
Il faut qu'il dégage comme lui.
Ce fut un cadre.
Mais il y a cette connivence. On vient de sortir la la sœur du fils du Gouin impliquée dans une, un trafic d'alcool.
C'est fabuleux.
Mais enfin, il y a, il y a 4 ans, quand a éclaté l'affaire du Gouin, il y avait 60 000 bouteilles achetées par le Conseil général de l'Essonne. Bon, c'était tout de même, on devait se dire que s'il y a soit Phare que soit le conseiller général
ah, fort buveur, là, hein,
de l'Essonne, c'était quand même... Mais il va y avoir, attendez, ce qu'il va y avoir,
même nous, on est enfoncés,
le trafic...
Hein.
De produits solaires, parce qu'il y avait 30 000 flacons de produits solaires.
Donc pour les
utiliser, il faut
aller au soleil. Pour les utiliser, il faut aller au soleil.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je dis 30 000, ça me paraît beaucoup, mais enfin, c'était. Il y avait un budget, oui, il y avait un budget alcool. Un budget alcool et un budget crème solaire.
Mais c'est parce que quand on prend des voyages aux Antilles...
Mais enfin, Emmanuel doit s'en souvenir.
Je m'en souviens pas, mais pour revenir sur le problème de la connivence...
C'est fabuleux, ça.
Un événement quand même qui s'est produit la semaine dernière qui n'était pas inintéressant. Bon, pour simplifier, il y a eu des marchés qui ont été passés pour vendre des missiles à l'Angola. On rebondit sur une affaire parce que maintenant les affaires sont connexes, on se rend compte que c'est les participants participent à
c'est là où ils ont perquisitionné chez Marchiani,
chez Pasqua, chez Marchiani
et Attali,
chez Jean-Christophe Mitterrand et chez Jacques Attali.
Oui,
c'est
oui,
là
oui.
Où la connivence est absolument stupéfiante.
Présumé connivence.
Oui. Non, non, c'est que on a
faut dire présumé toutes les deux phrases. Maintenant. Je vous le dis parce que
j'y vois que ces gens sont coupables.
Non.
Et ce qu'il y a, c'est que avant, quand on faisait une perquisition, on allait soit à droite, soit à gauche. Mais c'est quand même extraordinaire de voir que là maintenant, la police et les juges, enfin les juges, ont quand même suffisamment d'éléments pour perquisitionner à la fois quand même des personnalités importantes de droite et des personnalités de gauche, puisque c'est quand même le fils de l'ancien président de la République
et
le plus proche conseiller du président de la République.
Et là, j'en reviens à la criminalité des pays de l'Est, c'est que dans l'affaire dont vient de parler Emmanuel Ratier, l'homme clé, et Guy Damac, qui est né en Russie et qui a choisi la nationalité israélienne en 1972, qui est également citoyen français et citoyen canadien, c'est quand même pas mal, il faut le faire, qui est très impliqué dans les ventes d'armes à l'Afrique ainsi que dans les trafics de diamants.
Il vit à Monte Carlo, j'imagine.
C'est lui qui avait sans doute financé le rachat de nos pilotes prisonniers des Serbes en Bosnie. Et donc, il est en rapport, il a été, l'Ordre National du Mérite, des mains de Marchiani, chez qui donc on a été perquisitionné, et il était très bien, pardon, avec Attali, pour les histoires quand Attali était consultant en Afrique, de l'Issouba au Congo-Brazza. Enfin, c'est vraiment, on retombe toujours sur cette connivence et sur... Il y a très peu de monde, finalement. Enfin,
moi, si j'étais pas aussi blindé, ça ébranlerait mon adoration, mon admiration pour la démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez, Adeline?
C'est le procès d'un système. Ouais. C'est le procès d'un système, parce que vous avez parlé de connivence. Je m'inquiétais tout à l'heure de cette espèce de domination de la droite par la gauche, enfin, en tout cas, des royalistes par les républicains, par la République. Et là, c'est un peu la même chose. C'est un système, parce que, savez-vous que... par-delà ce scandale qui n'affecte pour l'instant que l'Île-de-France et les lycées d'Île-de-France. Mais vous savez qu'il n'y a pas que l'Île-de-France, c'est un provincial qui vous le dit. Il n'y a pas que l'Île-de-France en France, il y a aussi d'autres régions, il y en a 21 autres. Par ailleurs, il y a aussi des départements. Il y a encore des départements. Et les départements, s'agissant des lycées, c'est la compétence régionale, hein, c'est donc les conseils régionaux. Les départements où le Front National était très peu présent, c'est la compétence des conseils généraux. Et puis alors, ensuite, il y a les grandes villes. Et donc là, ce sont les écoles. C'est la compétence des mairies. Eh bien, il serait intéressant pour la justice de savoir si ce qui s'est passé, pour les lycées d'Île-de-France, c'est également passé non seulement dans les autres régions, mais dans les échelons départementaux, etc. C'est le procès aussi, certainement, qui va commencer, non seulement de tout un système, mais d'une procédure qu'on a appelée la procédure METP. Comment cette procédure a-t-elle pu être légale pendant quelques années? Enfin bon, il y a beaucoup de questions certainement qui vont se poser. Et cette connivence, il est probable que nous la retrouverons à tous les échelons de la société.
Alors, oui, Emmanuel.
Oui, je ne voudrais pas monopoliser le micro. Ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, on voit aussi que ça s'effectue, on parlait des mafias russes, ça s'effectue à l'échelle planétaire. Il y a un bouquin très intéressant qui vient de sortir aux États-Unis, qui a été écrit par le chef du bureau, c'est une dame, qui dirige le bureau du Financial Times de Moscou. Et elle a vécu pendant une douzaine d'années à Moscou. Elle vient de publier un bouquin dans lequel elle explique qu'en gros, il y a sept personnes qui sont les grands barons. Il y a sept personnes qui possèdent actuellement qui contrôlent plus de 50% du PNB soviétique russe. C'est-à-dire qu'ils se sont séparés le pétrole, les minerais, les grandes banques et assurances. Il y a sept personnes.
Ce sont des élus du peuple ?
Pas du tout.
Non,
pas du tout. Les grandes chaînes de télévision,
ils sont pas dans cet ordre-là.
Bon. C'est proprement.
Non, ce qui est intéressant, c'est que dans son bouquin, c'est qu'elle révèle que l'accord associant Boris Eltsine à ces sept personnes, et c'est pour ça que Poutine essaye de lutter contre eux, l'accord a été passé au Forum économique de Davos. Et qu'ils ont passé un accord secret parce qu'elle a fait parler deux des sept barons. Et en échange de quoi, ils ont financé la campagne de Eltsine, qui avait très peu de chances d'être réélu. Et ils l'ont financé également personnellement. Et elle donne des éléments très précis, et on vous dit toujours au Forum économique de Davos, les gens, très bien, ils font des théories économiques, etc. Pas du tout, ils font des affaires. Le bouquin vient de sortir, bon, à New York, c'est Random House, ça s'appelle la braderie du siècle. Bon, mais c'est en américain. Le bouquin vient de sortir. C'est un bouquin extraordinaire parce qu'il montre le degré d'implication. Maintenant, avant, ce que dit Mariadine, je pense que c'est exact. On fait ça dans la ville, après on fait ça au département, après on fait ça dans la région, et puis on fait ça maintenant pratiquement au niveau planétaire.
Il y a les noms des barons.
Oui, bien sûr.
Des barons, vraiment, c'est comme ça
que vous... Oui, non, mais c'est ce qu'ils appellent les oligarques ou les barons. Vous savez, c'est ceux qui ont quelques problèmes en ce moment avec Poutine. Voilà.
Autrement dit, ce qui est drôle, quand je parlais du procès d'un système par-delà, justement, droite ou, enfin, en tout cas, droite occupée, idéologiquement, et gauche, c'est que ces procédures-là étaient quand même des pompes à finances. Alors, pour quelle partie ? C'était la justice de répondre à cela, enfin l'instruction de découvrir cela. Et ce parti-là, donc, arrosait qui ? D'autres partis. Enfin, des personnes qui appartenaient à d'autres partis. Donc, on voit bien que c'est vraiment le procès d'un système. C'est-à-dire que là, c'est
l'essentiel dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Ça, c'est voilà. Capital. Il faut savoir que tous ces gens-là ont fait ça pour le parti, pour la France, en fait, puisque les partis sont au service de la France. Et donc, c'est au service de la nation. Il n'y a pas d'enrichissement personnel.
J'entends bien votre bonne volonté démocratique.
Ça, pour la piscine personnelle.
Non, mais j'entends.
Ça, c'est pas pour l'enrichissement, c'est pour le bain personnel. Ça n'a rien mélangé tout.
Alors, je voudrais pas décevoir votre bonne volonté démocratique, Serge, mais l'enrichissement, bien sûr qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Sauf qu'il y a des intermédiaires.
Comment bien
sûr. Ah ben non, mais je disais ça pour faire plaisir à Serge, moi. C'est pour être aussi politiquement correct.
Dans l'hypothèse où il n'y a pas ce que vous appelez enregistrement personnel, il y a enregistrement personnel. Car en finançant le parti, ils financent leur carrière. Même s'ils ne mettent pas directement sur leur compte personnel ou s'ils ne prennent pas en billets pour mettre dans leur poche, il y a de toute façon la carrière.
Non, mais Jean-Médéran, ce que je veux savoir, c'était bien entendu une
présentation. Dans tous les cas, il y a enregistrement personnel de ceux qui sont chefs de parti, élus, etc., etc.
Non seulement cela,
il y a le financement de leurs élections.
Non, mais non seulement cela.
Mais je crois que je pense que Yves Mariadine plaisantait. Hein.
Alors, je dis que c'était non, mais la pompe à finances du parti en question.
Il prend un air tellement grave depuis qu'il nous parle ce soir qu'on se demande s'il plaisante vraiment.
Car à moitié, vous avez un peu raison. Parce que cette pompe à finances, elle passe forcément par des intermédiaires. Et donc, il y a nécessairement des enregistrements personnels.
Alors, mais voilà, c'est ça. Mais de toute façon, il y a le principal enregistrement personnel, c'est celui qui fait qu'on est président de la République. C'est celui qui fait qu'on est élu.
Qu'est-ce que vous allez
penser? C'est celui de profiter.
C'est un détournement des fonds vis-à-vis du peuple.
Ah, mais ça, le peuple ne comprendra jamais, mon cher Varane.
Alors, c'est la question.
L'argent pousse dans les arbres, c'est bien connu.
Ce que je veux dire, c'est que les dirigeants et les élus du parti profitent personnellement de cet enrichissement, même si ce n'est pas au sens strict un enrichissement personnel.
Quand on pense aux retraites des élus, eh ben c'est déjà un enrichissement personnel d'être élu.
Je voudrais revenir à une question qui vient de passer, là, je voudrais l'arrêter. Quand Yves-Marie Adeline dit, et puis je crois que Jean Madarin aussi, enfin ça s'est passé là, le peuple ne sait pas, il n'en tient pas compte, il ne comprend pas, etc. Et quel est à votre avis, quel pourrait être à votre avis l'importance des retombées de ces affaires actuelles sur les municipales, par exemple, sur la prochaine...
Eux, ils en ont peur, parce que il n'y a qu'à voir, comme toute la presse est d'accord pour dire, ah non, que ne, pas le tous pourri, hein, n'allez pas faire le populisme du tous pourri. Je crois qu'ils en ont très peur. Je crois qu'ils en ont très peur de tout ce qui... D'abord, ils ont été formés à tout le temps s'effrayer eux-mêmes en disant qu'on est en train de revivre les affreuses années des années 30.
Genre les plus sombres.
Des années 30 où s'est préparé le fascisme et où je crois qu'ils ont réellement
Séguin l'a dit en disant pour le moment le Front National n'est pas en mesure de profiter de la situation, provisoirement du moins.
Oui.
Je voudrais quand même,
c'est qu'ils vont essayer d'étouffer. Parce qu'il y a quand même une chose. Regardez Roussin, qui a été libéré en 48 heures. Et de quelles conditions?
Il devait
passer en jugement l'après-midi, et sa libération a été faite en douce à midi, pour que personne puisse intervenir.
Ça, il s'agit d'une opération RPRO-RPR, parce que gars qui l'a fait libérer, c'est Ben Maclouf, qui est un ancien collaborateur direct de Mitterrand, de Chirac et de Roussin. Donc
le
là, on voit bien, en quelque sorte, c'est...
Ce qui prouve qu'ils vont, moi je crois, ils vont essayer d'étouffer les affaires.
Et ça ne va pas très bien.
Parce que, ils ont un moyen, mais qui me paraît bien difficile à employer maintenant, c'est un moyen légal, c'est la loi d'amnistie. Mais comment la motiver? La motiver, cette seconde loi d'amnistie...
Ça fera la deuxième.
Oui, je dis comment la...
Troisième.
Oui,
la
mais,
troisième.
Mais je ne crois pas qu'il y ait tellement d'autres moyens.
Non, mais...
Et c'est pas difficile à faire, la loi d'amnistie. Seulement, c'était la motiver, pour ne pas provoquer...
L'ordre public.
On est quand même près des municipales. Hein.
Oui.
Attention.
Non, mais encore une fois, bon, il y a la difficulté pour les citoyens de s'y retrouver, dans la mesure où même ceux qui parlent de tous pourris ont révélé qu'eux-mêmes pouvaient l'être. Et puis, par ailleurs, le citoyen ne comprend pas que cet argent de la corruption, c'est le sien. Parce qu'il ne comprend pas du tout que lorsque vous êtes dépositaire de l'autorité publique et que donc vous êtes le corrupteur passif par rapport au corrupteur actif, cet argent supplémentaire faut donner au corrupteur, il faut bien les chercher quelque part. Donc on va le chercher dans la poche du contribuable.
Le citoyen ne comprend pas que tout l'argent qui se dépense, que l'État dépense, c'est celui des gens qui travaillent. Car finalement, il y a une source de richesse. La source de richesse, ce sont les gens qui créent des richesses, qui travaillent. Et tout l'argent, toute subvention, tout détournement de fonds, détourné ou non, c'est l'argent.
On va être très clair. Peut-être pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Imaginons que je sois à la tête d'une collectivité et je dis voilà, je vais faire construire une piscine collective. Oui. Mais je veux toucher de l'argent sur cette affaire. Donc je m'adresse à un entrepreneur. La piscine, elle doit coûter en principe 100 000 francs. Je dis à l'entrepreneur, je te donnerai ce marché, sauf si tu me donnes de l'argent. Inévitablement, l'entrepreneur, c'est pas un philanthrope. Bon, donc c'est un businessman. Donc il va pas me vendre la piscine 100 000. Il va la vendre 120 000 pour pouvoir me donner 20 000. Mais ces 120 000, où est-ce que je vais les trouver? Bah c'est un établissement public. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais chercher 120 000 chez le contribuable. Donc c'est le contribuable qui paye les 20 000.
Dans 20 000.
Quand
dans,
les Français auront compris
dans 20 000 qui ne correspond, les 100 000 correspondent à une prestation, les 20 000 ne correspondent à aucun travail.
À rien du tout.
Voilà.
Bah ça c'est l'argent de la corruption.
Mais c'est tiré du contribuable.
De la poche.
Je voudrais signaler aux auditeurs que le Front National organise une grande manifestation justement contre la corruption demain, jeudi 14, place Saint-François-Xavier, c'est-à-dire tout près du Conseil régional. Voilà.
Ok.
Alors, ce que je trouve le plus grave, ce n'est pas l'issue des municipales. Après tout, c'est une élection supplémentaire, mais c'est que je crois que les Français savent que très bien combien leur coûte la corruption quand ils voient que le crack du Crédit Lyonnais, ça fait 4000 francs par contribuable.
Mais ils n'ont pas compris.
Ça, non, je crois qu'ils le comprennent. Mais le plus grave, c'est que ça entraîne une criminalité diffuse et générale.
Ben bien sûr. Les gens se disent, mais comme on est dirigé par des voleurs, on ne peut pas nous gêner.
Là, j'ai appris, par exemple, que maintenant, à Saint-Cyr, les vols étaient très courants entre élèves officiers.
Les vols dans les sacs, les vols à la trie. L'année dernière, c'était les viols. Maintenant, c'est les vols. On voit tout de même de plus en plus de
notables. Il y a l'affaire de la DGN à Toulon. Il y a eu l'affaire de militaires en Somalie, à Djibouti, des trafics militaires à Djibouti, il y a des juges pourris, il y a aucun milieu maintenant n'est indemne. Il y a eu des gendarmes, il y a des officiers de gendarmerie qui actuellement sont mis en examen. Vraiment, personne n'est indemne.
J'ai même appris
la moralité publique, le résultat est absolument déplorable.
J'ai appris une chose tout récemment qui m'a quand même laissé un petit peu pantois. C'est que dans certains établissements, comment appelle-t-on ça, des établissements où on entrepose les cadavres.
Les morgues. Morgues.
Dans certaines morgues, les garçons de morgue, je dis bien dans certaines, pas dans toutes, et certains garçons, pas tous, prélèvent des glandes. Non, pas les dents en or, non, ni les lunettes, ni les glandes en or, ils sont plus malins que ça. Les glandes, ils prélèvent par le canal pituitaire, c'est-à-dire quelque chose qui se trouve entre le nez et la mâchoire supérieure, une glande qui est là, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais peu importe, qui contient des quantités, pas très importantes, mais monnayables, d'hormones extrêmement rares et non synthétisables. Et que tout ça est vendu au laboratoire. Alors évidemment, quand vous allez récupérer un parent accidenté dans une morgue, vous ne pensez pas à faire la visite des 25 000 km en disant est-ce que par hasard on lui aurait pas piqué la glande pituitaire. Voilà où on en est. C'est-à-dire qu'on dépouille les cadavres de l'intérieur maintenant. Bon, alors, j'ai même appris qu'on volait, et ça j'en ai un témoignage précis, dans les hôpitaux, quand quelqu'un qui est porteur d'un pacemaker meurt, on enlève le pacemaker, on récupère la pile et on la revend au fabricant de pacemaker. Donc, à partir de là, on est vraiment dans un système qui dépasse l'horreur la plus totale en matière de crapulerie. On peut difficilement aller plus loin. Je publie dans le Libre Journal une information. En Pologne, il y a une grand-mère qui a été arrêtée au moment où elle était en train de vendre son petit-fils, tout simplement. Elle avait trouvé un type qui lui achetait son petit-fils 90 000 dollars, ce qui était quand même pas rien. Mais c'était pas un pédophile, c'était un débitant de viande humaine
d'organes.
Il avait un client pour les poumons, un client pour le foie, un client pour ceci, et le gosse allait être débité.
Il y en a d'autres qui vendent le passeport de leur père qui est en train de mourir.
Le passeport de papa agonisant. Voilà. Non, mais c'est. Alors après, quand on nous dit on vous arrête dans la rue parce que vous êtes passé à l'orange, on a vraiment envie de dire au poulet, écoutez, occupez-vous un petit peu de ce qui est important. Je ne sais pas, c'est ma réaction à moi.
C'est une régression.
Voilà. On a d'autres commentaires sur cette situation.
Oui, il y a une chose que je voudrais vous dire qui n'a rien. On change un petit peu de sujet, mais c'est sur le problème de l'insécurité
dans les lycées et tout cela, on a reçu un document qu'on va publier dans National Hebdo, qui est assez intéressant. C'est la demande de permutation des enseignants.
C'était dans le Libre Journal de la semaine dernière.
Et dans fait document,
il y a... je vais vous redonner, parce que les auditeurs, la primeur. À Paris, il y en a eu 377, dans les Bouches-du-Rhône, 634, et tenez-vous bien, en Seine-Saint-Denis, 1985 d'enseignants qu'on demandait à permuter.
Mais ce qui est plus intéressant, à mon avis, enfin, les chiffres en soi sont intéressants, mais si on les analyse, on s'aperçoit qu'il y a, parce qu'il y a des mouvements, il y a des enseignants qui demandent à aller dans un département et des enseignants qui demandent à en partir. En Seine-Saint-Denis, il y a 120 fois plus d'enseignants qui demandent à foutre le camp que d'enseignants qui demandent à entrer.
Est-ce qu'il faut savoir que c'est...
Alors, c'est tout. C'est l'Académie de Paris.
Est-ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui demandent à y aller sont exclusivement des jeunes et ils passent un contrat, un accord. En fait, ce sont des gens qui vont pendant 2 ou 3 ans en Seine-Saint-Denis.
Mm-hmm. Et après, ils sont à Paris.
Ils sont à Paris directement et leurs points retraite sont majorés. Et toute une série d'avantages qui leur permettent de monter plus rapidement.
Alors, encore, Seine-Saint-Denis...
Alors, ils préfèrent plutôt, par exemple, souvent, ce sont des gens, par exemple, qui préparent des doctorats ou des thèses et qui sont déjà professeurs. Et ils préfèrent souffrir en banlieue, mais pouvoir aller étudier dans les bonnes bibliothèques parisiennes, etc., plutôt que de se retrouver professeur dans un collège de province où c'est beaucoup plus difficile. Et ce sont pratiquement exclusivement ces gens-là qui demandent à aller en Seine-Saint-Denis. Mais sinon, il n'y a pas un seul prof normal qui veut aller en Seine-Saint-Denis.
Et la Seine-Saint-Denis, encore, on voit bien, même si on veut être très prudent, on envisage, on voit à peu près quelle raison il peut y avoir. C'est vrai que la Seine-Saint-Denis, c'est quand même un port de mer qui est un petit peu... qui n'est pas vraiment plein de charme et plein de douceur. Mais les Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire Marseille, les Calanques, la Méditerranée et tout, eh bien, les gens veulent foutre le camp des Bouches-du-Rhône, les enseignants demandent à partir, et ceux qui veulent entrer sont infiniment moins nombreux que ceux qui veulent partir.
Si
on se demande si c'est vraiment une question de climat, hein, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas d'explication
à proposer. Ah si, c'est un climat.
C'est du climat.
Un climat différent. Il y a un autre exemple, c'est que le seul département où le prix des appartements, le mètre carré, a baissé l'année dernière, c'est la Seine-Saint-Denis.
C'est un problème. Ce qui est miraculeux, d'ailleurs, c'est qu'il y a encore des gens qui envisagent d'acheter en Seine-Saint-Denis.
C'est un problème de climat.
Bien. Non. Oui, alors, les questions maintenant des auditeurs.
C'est des commentaires au-dessus même des questions, ça reprend l'ensemble.
Allez, en vrac.
Alors, s'il vous plaît, ne commencez pas à faire de l'anti-germanisme primaire. Ne soyez pas un germanophobe, nous ne sommes plus en 1939. Signé un vieux lecteur de Rivarol qui félicite Marie-Camille Gallier.
Sans blague.
Merci, monsieur.
Ce qui est dit ce soir est scandaleux. À Nice, nous étions plus de 400 à l'hôpital Westminster. Une petite délégation de 100 personnes.
Voyez, Serge.
Symboliquement s'est rendu vers l'aéropolis. Les CRS nous ont bloqués, mais au moins, nous avons fait quelque chose. Ouais. Le Stalpella CNT occupait le siège de la SNCF, puis le ministère des Transports pour obtenir un train gratuit pour Nice. C'est à rapprocher de José Bové, soutenu par un ministre qui s'oppose au travail des policiers chargés de protéger une réunion. Je suis devant un grand dilemme. Jospin ou Chirac, je ne me rappelle plus lequel, a déclaré qu'il faut sacrifier un petit peu de souveraineté pour faire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? On est ou on n'est pas du souverain? On est ou... Bon. Qu'entend-il par un petit peu de souveraineté? Moi, je suis contre tout abandon de souveraineté. Combien y a-t-il de Turcs en Europe? Je pense que la Turquie est télécommandée par les USA, et comme les Turcs sont plus nombreux que les Allemands, si la Turquie entre dans l'Europe, ils vont nous diriger. Un délit, s'il est commis...
Il faudra appeler les Kurdes à la rescousse.
Un délit, s'il est commis... S'il est commis, ne se juge pas sur l'enrichissement, mais sur le fait qu'on a enfreint la loi. Je trouve étonnant que vous vous étonniez de la pratique du financement occulte. Quand on est au pouvoir, c'est humain et tentant. Mais il faut faire la différence entre ceux qui la pratiquent mais ne laissent pas leur ville endettée, comme par exemple Balkany à Levallois ou Médecins à Nice, et ceux de gauche qui font la morale et qui laissent les villes endettées, comme Boucheron à Angoulême. Le fameux bonnet blanc, blanc bonnet du camarade Jacques Duclos s'applique à nos voleurs de droite et de gauche. Il faut traiter les politiques comme les bovins, pour un pourri, abattre tout le troupeau.
Ah, bravo. Ça, c'est un dessin de miège, ça.
C'est le dessin génial de Miel.
Est-ce que la presse n'est pas toute pourrie du fait que les journalistes payent entre 20 et 50% de moins d'impôts que tout le monde?
Mais non, c'est plus... Ça, alors vous retardez, mon pauvre monsieur, si vous saviez.
N'avez-vous pas honte de critiquer des gens qui sont citoyens du monde, fussent-ils marchands d'armes?
Non.
Question personnelle, je ne trouve plus NH, on m'a dit qu'il ne paraissait plus. Qu'en est-il? Dites que...
Mais écoutez, NH se porte bien. Bon, simplement, il y a peut-être un problème de distribution dans les kiosques, c'est possible. Je demande à cet auditeur d'appeler National Hebdo. D'abord, ça me ferait un plaisir de lui adresser gratuitement pendant un mois et de trouver l'endroit où il pourra l'acheter.
Redites l'adresse.
Où trouve-t-il tout cet argent?
Alors, je rappelle que tu m'avais dit que l'autre fois j'étais parti avec la caisse. Je suis pas parti avec la caisse.
Mais t'as eu tort si tu veux m'en aller parce que bien, tu peux te permettre d'offrir des abonnements d'un mois.
Il peut écrire à National Hebdo, 6 rue Vauguyon. Saint-Cloud, 92 210. 6 rue Vauguyon, Saint-Cloud, 92 210.
J'ai dit que tu étais présumé parti avec la caisse.
Non, mais vous avez surtout dit, quelle caisse?
La caisse que c'est?
Là, il était en Irak.
Continuons. Comment se fait-il que Serge Lebeketch invite Yves-Marie Adeline alors qu'il a été habillé par un article de M. Ploncard à Sac dans un des derniers numéros du Libre Journal?
Ça s'appelle une question stalinienne. Parce que Ploncard n'est pas d'accord avec Adeline. D'ailleurs, ils en discutent autour d'une table le moment venu. Ils ne sont pas d'accord sur un problème de doctrine. Sur un point de doctrine ou un point de...
Il est nationaliste.
Bon, il est nationaliste et vous êtes souverainiste. C'est ça.
C'est la même chose. C'est prêt, c'est
Ploncard
ça, ressemble,
fait des papiers dans le Libre Journal. Il se trouve que Serge Lebeketch, c'est-à-dire moi-même, le directeur du Libre Journal de la rédaction, parce que la directrice, c'est ma femme, le directeur de la rédaction, je suis très ami avec Daniel Amiche. J'aime bien Adeline aussi, mais je suis très ami avec Daniel Amiche, qui est quelque chose...
Qui est directeur de la publication.
Donc vous voyez, en fait, on est comme les hommes politiques, on fait semblant de se bouffer le nez, mais on est tous d'accord. C'est ça, c'est
tous pourris.
Non, mais on se donne la parole entre nous. C'est pas parce qu'on a un point de désaccord sur je sais pas quoi. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça?
Eh bien, on n'a pas la même philosophie politique. Et alors,
les mêmes valeurs,
on n'a pas les mêmes. Bon, on ne va pas se tirer dessus pour ça.
Et d'ailleurs, on va organiser un débat entre Adeline. En tout cas, il va y avoir prochainement un débat entre Lesquin et Ploncard.
Quelques petits messages encore. Il faut le dire et le répéter. Jamais aucun militant ou sympathisant nationaliste n'a été à l'origine du moindre trouble dans la société française. En clair, jamais aucun Français n'a été attaqué dans la rue, le RER, par un sympathisant des Fronts Nationaux. Pour M. Adeline,
oui.
Le nom, mon pauvre ami, citoyen n'est pas scandalisé, ni ignorant des vols des pourriticiens. Il les admire et ne rêve que d'une chose, qu'un jour il puisse voler à son tour.
Absolument,
c'est pas faux. Hein.
Je suis tout à fait d'accord.
Absolument. Moi, je l'ai écrit.
Entendu hier...
Permettez-moi de voter pour moi.
Entendu hier à la radio par une avocate de Bobigny en grève, le barreau de Bobigny représente 1% des avocats français et le barreau de Bobigny traite 10% de l'aide judiciaire.
Ah tiens.
Contrairement à ce qui a été annoncé par les invités, c'est ce soir, mercredi 20h, que M. Chirac s'explique à la télévision.
Enfin, s'explique.
Ce soir, je ne crois pas. Je ne sais pas si c'est un auditeur qui...
Je ne crois pas.
Je ne sais pas où il est demain, mais il m'a fait sauter une conférence que je devais donner à Dauphine. Alors,
je ne crois pas, mais ça peut être changé. Hein.
Il y a urgence.
On annonce cette fin d'après-midi. Alors, elle peut être rectifiée peut-être.
C'est peut-être plutôt Al Gore qui part ce soir.
Corona premier roi des Maboules, on sait, il parle peut-être aujourd'hui, demain, après-demain, il va peut-être venir tous les soirs, il va faire comme... qui est-ce qui faisait ça pendant longtemps, qui parlait tous les soirs à la télévision? C'était Gorbatchev, non, qui avait inauguré ça. Hein, voilà. Allons-y, la suite.
Deux questions, une question. Il y a quelques semaines, le Figaro Magazine a publié un reportage sur les francs-maçons, dans lequel ceux-ci prétendent qu'ils n'ont jamais pris... part à la politique française, mais que dorénavant ils veulent se faire entendre. Qu'est-ce que ça va être? Quelle imposture quand on sait que ce sont eux qui mènent la danse depuis 200 ans.
On va reprendre la phrase de l'éditorialiste du Monde, c'est stupéfiant.
C'est proprement stupéfiant. Ouais.
Daniel Mermet de France Inter à 17h a lancé un appel à témoins pour alimenter une nouvelle émission sur la torture en Algérie. les pauvres Fenaga, naturellement. Il faudrait que tous ceux qui ont quelque chose à dire sur ce sujet se branchent sur le Standard de France Inter.
Alors, à ce propos, tiens, dans le monde d'aujourd'hui, il y a un truc fabuleux, je voulais en parler. C'est absolument délicieux. Enfin, délicieux. Bon. Ça s'appelle Les Enfants aussi, par Jacques Charby. Alors, c'est le petit Mustapha qui dit « Je veux être Jundi », entre parenthèses, soldat. Vous saviez que ça non. se disait, ça, Jundi, soldat ?
C'est même héros.
Voilà. Donc, il veut,
héros militaire.
Oui. Le petit Mustapha, il veut être Jundi pour combattre la France parce qu'elle m'a brûlé. Je les brûlerai comme ils m'ont brûlé. Déjà, on est dans le débat sympathique. Alors, c'est l'histoire d'un petit Algérien qui se prénommait Mustapha, mais dont on ignorait le nom et l'âge, environ 10 ans. Il était, vous allez voir, c'est extraordinaire. On ignore son nom et son âge. Il était originaire d'Aïn Beïda, près de Tébessa. Des parachutistes l'ont brûlé et mitraillé. Il a survécu, mais il a laissé une main. Alors après, il y a une demi-colonne d'abomination sur ce qu'on a fait à ce petit Mustapha. Et peu après, j'ai retrouvé une jeune Algérienne, dit M. Charby, qui était voisine de la famille de Mustapha. Elle m'a confirmé ce récit en ajoutant ceci. La veille, 4 soldats français avaient été tués par nos combattants, ça les a rendus furieux, ils ont fait des dégâts, ils étaient ivres. Point. Fermez les guillemets. Et Charby ajoute, Mustapha était devenu mon fils. Il n'a pas pu vivre avec ses plaies et ses mutilations. Il s'est laissé mourir en décembre de l'année dernière.
Et alors, depuis combien de temps?
Depuis 62.
Depuis même avant. Enfin.
Depuis probablement avant. En tout cas, au moins depuis 62. Peut-être depuis 60 ou 58. Donc, il a quand même mis 40 ans à se laisser mourir. Écoutez, moi, je veux bien. C'est vrai qu'on est des cons de goy, mais il faudrait peut-être quand même arrêter de nous prendre pour des imbéciles tout le temps. Il faudrait essayer de moduler un peu. Vous voyez, faire comme si vous soupçonniez qu'on a un petit peu d'intelligence dans la cervelle. Un tout petit peu. Quand vous inventez des carabistouilles, essayez de les rendre un tout petit peu vraisemblables. Au moins. Pas beaucoup, je dis un tout petit peu. Arrêtez de nous raconter des conneries. Quoi. C'est trop, ça. Trop, non, le petit Mustapha qui met 40 ans à mourir des tortures.
À se laisser mourir.
Écoutez, ça va maintenant, il y en a marre.
En fait, l'affaire du petit Mustapha, c'est l'affaire de Seybnitz. C'est le...
Voilà, c'est l'affaire de Seybnitz. L'enfant noyé devant 215.
L'enfant violenté, noyé, drogué, matraqué.
Alors, vous avez vu la suite de cette histoire.
Qui s'accrochait à la douche.
Et qui s'accrochait à la pomme de douche.
Mais vous avez vu l'histoire, la suite, c'est que maintenant, on sait la vérité.
Oui.
Tout ça, la mère de ce gosse, il faut résumer en deux mots, ça se passe dans une petite ville d'Allemagne de l'Est, un enfant est retrouvé mort, et les parents, qui sont, la mère est allemande de l'Est, le père est
d'origine... Au bout de l'Ouest.
D'origine iranienne, le père. Hein.
Irakien,
voilà. Irakien.
Il est d'extrême gauche irakien.
Et possède une grosse pharmacie.
Voilà, il a une pharmacie.
Grosse.
Et donc leur enfant est mort, ce qui est tragique, évidemment.
Il y a 3 ans.
Pauvre gosse. Et la mère va susciter des témoignages qui vont raconter, en payant les gens, ça on en a la preuve maintenant, elle paye des faux témoins qui vont dire que cet enfant a été torturé et tué par des néo-nazis, skins allemands de l'Est, etc.
Devant 300 personnes.
Devant 250 personnes dans une piscine. 250 témoins. Bon, on découvre que tous les témoins se déballonnent, ils avouent qu'ils ont été payés pour ça, etc., etc. Mais maintenant, on sait la vérité. Au détour d'une phrase, c'est que faisaient les parents du petit Mustapha? Ils étaient pharmaciens. Qui avait-il accusé? La fille de l'autre pharmacien du bled. Autrement dit, c'est une histoire de concurrence commerciale entre deux potards. Ça a failli provoquer un cataclysme médiatique.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, ces gens-là n'ont toujours pas été arrêtés. En réalité, ils se reposent sous protection policière parce qu'ils sont un peu ébranlés actuellement.
Sous protection policière de psychologues payés par l'État.
Pour leur permettre de se remettre.
Et ce qui a été scandaleux, c'est que quand même, le pasteur de la ville ait été déplacé parce qu'il avait élevé certains doutes sur la version de la mère. Cette affaire est absolument scandaleuse et tous les journaux... Enfin, alors maintenant, on nous dit, ils étaient fragiles psychologiquement.
Alors voilà...
Oui, effectivement, c'est la même histoire en France, dans l'affaire Vauvert, où on a trouvé de faux témoignages demandés par SOS Racisme, que le gars s'est déplacé pour faire signer des dépositions. et qui se sont rétractés après.
Ça, c'est dans le prochain numéro de National Hebdo.
Non, mais c'est dans les précédents numéros de présent. Emmanuel, alors,
a-t-il... Ce sera dans le prochain numéro de...
Vous avez tous la parole pendant quelques secondes pour rappeler la périodicité, l'adresse et les conditions dans lesquelles vous pouvez faire connaître votre journal. Jean Madiran en parle.
Eh bien, présent étant quotidien, on a souvent le privilège immérité, on ne fait rien pour ça, de publier les choses avant les autres, bien entendu, puisqu'on paraît tous les jours.
C'est normal, c'est un quotidien.
Et c'est, oui, un quotidien paraît tous les jours, voilà. Eh bien, présent, donc, paraît 5 jours par semaine, comme...
Ça ne fait pas tous les jours, ça, j'en veux dire.
Mais si, si.
On a moins
de... Il faut savoir que la définition d'un quotidien en France, la définition réglementaire, c'est de paraître 5 jours par semaine. Si ça avait été de 4, nous aurions peut-être paru 4 jours par semaine, mais c'est 5. Voilà. Vous envoyez 100 francs, vous avez un abonnement d'essai de 4 semaines.
5 rue d'Amboise.
5 rue d'Amboise, Paris 2e.
Et Marolles?
Nous paraissons le vendredi, au sommaire du prochain, il y a le grand retour des barbouzes, les pédoscandales qu'on vous cache.
En image.
Non, non, Françoise n'est pas allée jusque-là. Encore que, ça c'est une surprise pour les lecteurs. Et on peut nous demander un spécimen, mais pas le dernier numéro, au 1 rue d'Hauteville, 7510 Paris. Téléphone 01 53 34 97 97.
Bien, si vous étiez là dans la première partie, vous avez entendu donc le clan de la presse, qui est l'émission mensuelle maintenant, la première partie une fois par mois de l'émission du mercredi soir, où je reçois les journaux de la presse amie, de la presse nationale amie, c'est-à-dire Présent, Rivarol, Mondévi, quand Claude Giraud n'a pas d'émission à proximité, parce qu'autrement elle a peur de devenir... de squatter, enfin d'être inopportune, ce qui n'est jamais le cas. National Hebdo fait des documents, et puis deux journaux dans un homme, c'est-à-dire le légitimiste et
Fidélis,
il n'y a rien à faire, je ne vais pas
arriver.
Madeleine. Alors, comme promis, je redonne la parole à Jean-Claude Varane pour qu'il puisse vous faire une annonce.
Eh bien, il faut parler des autres aussi.
Vous voulez reparler de Présent?
Bien sûr, le cadeau de Noël de Présent.
Ah,
si vous voulez offrir le cadeau de Noël de Présent à quelque ami, eh bien, pour 100 francs seulement, 4 semaines de Présent. Présent, 2 rue d'Amboise.
Non, 5.
Non, 5, effectivement, Serge. Je voulais voir si vous me rectifiez. 5 rue d'Amboise, Paris 2e.
Bien. Alors, voilà, attendez une seconde. Alors, il faut que je dise quand même qu'on fêtera le 27 janvier notre 50e anniversaire et que nous donnons un grand repas un raout auquel j'espère très nombreux les auditeurs de Radio Courtoisie. Le prix en est de 200 francs, 250 francs pour les amis de Rivarol, a donc envoyé le chèque le plus rapidement possible.
C'est le 27, c'est ça ?
Le 27, le samedi 27.
À midi.
Enfin, à midi, le 27, le samedi 27 janvier, dans un restaurant du 10e arrondissement de Paris, dès réception du chèque de 200 francs au 1 rue d'Hauteville, nous enverrons toutes les indications.
Alors du coup, le l'idée traditionnelle du libre journal est remis à une date ultérieure. Je ne sais pas quand on va arriver à le faire, celui-là, mais on ne peut pas décemment faire 2 dîners dans le même mois. Ça, on
n'a
pas les moyens
des
socialistes.
Un déjeuner, vous, c'est un...
Ah oui, mais vous croyez qu'on fait partie des gens qui mangent 2 fois par jour? Jean-Claude.
Bien, National Hebdo, je ne vais pas pouvoir passer 2 messages, donc vous considérez que celui que je vais vous passer sera bissé. Alors, donc, National Hebdo...
Bissé.
National Hebdo, 6 rue Vauguyon, Saint-Cloud, 92 210. Pour ceux qui ne connaissent pas National Hebdo, nous offrons 1 mois gratuit.
Ah voilà, c'est ça l'argent. Ah, voilà, la puissance.
Mais d'où vient tout cet argent ?
Il y a un parti derrière qui dit, alors tout de suite...
Un marché.
Non, nous cherchons simplement à avoir des lecteurs.
C'est bien. Et des électeurs aussi. Un marché, une autre, c'est autre chose. Emmanuel.
Donc, le prochain numéro que je sors de Faits et Documents, je dirais qu'il y a 2 têtes de chapitres importantes. Il y en a une, je commence une série, je pense que ça intéressera pas mal de gens. Ce sont les portraits des 12 grands témoins qui appelle à la repentance de la France sur la question de la torture en Algérie. Et on découvre que ce sont des gens qui ont un pédigré assez chargé.
Ah.
Et le 2e document que je publie est un document assez spécial, puisque c'est une lettre envoyée par Carlos, pas le chanteur, mais le fameux terroriste, qu'il envoie à Michel Lajoie.
Formidable document.
Détenu depuis, qui a une peine incompressible de 18 ans de prison pour avoir commis ou pas commis, enfin c'est pas très clair, un attentat
sans blessé.
C'est
pas eu de blessé.
C'est pas... une lettre qui est absolument stupéfiante, puisque c'est une lettre du patron d'une organisation terroriste internationale d'extrême gauche, qui écrit toute sa sympathie, c'est assez émouvant, à un jeune militant nationaliste français.
Je vous assure que... Waffen-SS.
C'est un document incroyable. Moi, je voulais le publier, mais puisque Emmanuel le publie, je m'efface. Mais c'est un quand je l'ai lu, je dis c'est le document le plus fort, je pense, que j'ai lu depuis très 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 longtemps. Car il faut se souvenir de ce qu'a été Carlos dans l'imaginaire français il y a une vingtaine d'années. J'étais à l'époque rédacteur en chef de Minute, il avait posé une bombe devant Minute, et il a failli me tuer, tuer ma femme par la même occasion, puisque tout à fait par hasard, on est sorti 10 minutes avant l'explosion de la bombe, on serait sorti 10 minutes plus tard, on était ratatinés. Mais, donc c'était le personnage qui incarnait tout ce qu'on pouvait haïr, hein, le marxiste, terroriste, et cette lettre est stupéfiante d'abord parce qu'on découvre ce qu'est le personnage.
Il écrit bien en français.
On découvre comment il écrit en français.
Il comprend.
On découvre l'espèce de ductilité extraordinaire de l'intelligence. C'est tout à fait étonnant. C'est un document qu'il faut lire absolument. Hein.
Donc je donne. Alors, tout le monde m'a fait de la pub, donc je donne l'adresse. Donc c'est fait document BP 254. 75-424, Paris, CEDEX 09.
Mais si quelqu'un voulait avoir ce numéro...
Oui, je l'envoie, il n'y a aucun problème.
Vous l'envoyez moyennant quelques timbres.
Non, je ne demande même rien. Oui, on peut m'envoyer quelques timbres.
Envoyez quand même quelques timbres, ça vaut le coup. Hein. Yves-Marie Adeline, vous ne publiez pas de lettre de terroriste
ou... Non, oh là là, non.
Alors, c'est pour ça qu'on n'aura jamais le pouvoir.
J'ai été traité de terroriste, moi, quand j'accompagnais Xavier Dore, mais c'était pour d'autres raisons. Légitimiste, qui est un hebdomadaire royaliste, le seul, d'ailleurs, hélas, en France. 22 rue Didot, dans le 14e, 01, 45, 41, 29, deux fois. Et puis sinon, la revue Fidélis, revue royaliste, mensuelle, d'actualité et de doctrine, à la même adresse. Que donc je suis obligé de répéter.
Bah,
de 22 rue Didot, 75014 Paris, 01 45 41 29 deux fois.
Merci à tous et au mois prochain on conviendra de la date lors de rencontres secrètes et occultes comme à l'accoutumée. Merci.